accent d'Europe, Laurent Berthoud.
Bonjour à tous, l'événement sportif de la soirée et de la journée, c'est bien sûr cette demi-finale 2016 de l'Euro entre la France et l'Allemagne. Toute la journée, vous avez pu entendre les émissions spéciales de RFI en direct de Marseille. France-Allemagne, c'est l'une des plus belles affiches que pouvait nous offrir cette compétition. Deux équipes à l'image des sociétés françaises et allemandes, multiculturelles avec de nombreux joueurs issus de l'immigration. Pourtant, si l'équipe de France a une longue tradition de fils et petits-fils d'immigrés, pour l'Allemagne, il s'agit d'un phénomène récent. La Mannschaft en effet longtemps tourné le dos à des joueurs qui n'avaient pas pour prénom Jürgen Klaus, mais avec Mesut Özil ou encore Jérôme Boateng, les temps ont bien changé pour le succès que l'on connaît aujourd'hui. À Berlin, les explications de Julien Méchaussier.
Coupe du Monde 1998, l'Allemagne se fait balayer en quart de finale face à la Croatie 3-0. Une Mannschaft vieillissante, sans imagination et au jeu ennuyeux. La fin de l'ère Jürgen Klinsmann et Lothar Matthäus est d'une équipe qui ne ressemble plus à la société allemande. Sur les 23 joueurs sélectionnés, aucun n'est issu de l'immigration. Pendant ce temps, une équipe de France, jeune et multiculturelle, s'envole vers le titre de champion du monde. Un triomphe qui ouvre enfin les yeux de la fédération allemande, car malgré les millions de travailleurs étrangers qui vivent en Allemagne, le football allemand a oublié ses fils et petits-fils d'immigrés. Une politique calquée sur celle de l'État allemand pour qui les immigrés venus à l'époque du miracle économique n'étaient que des Gastarbeiter, des travailleurs invités. L'État allemand n'avait pas prévu qu'ils allaient rester et s'intégrer dans leur nouveau pays, et trop longtemps le football a lui aussi ignoré ses invités. Après 1998, la révolution est lancée. La fédération décide alors de copier le modèle de formation à la française et se tourne enfin vers les jeunes issus de l'immigration. Avec des premiers effets visibles lors de la Coupe du Monde 2010 et 11 joueurs de la National Mannschaft d'origine étrangère. Et une sélection populaire dans toutes les couches de la société allemande. Une évolution qui est, comme en France, dénoncée par les partis d'extrême droite. Un dirigeant de l'AFD, parti populiste qui a le vent en poupe, ici a ainsi affirmé ne pas souhaiter avoir Jérôme Boateng comme voisin à propos du défenseur de la sélection dont le père est ghanéen. Une déclaration qui a soulevé une immense vague d'indignation et n'en déplaise à l'AFD avec l'arrivée massive de réfugiés, la fédération allemande peut déjà profiter de nombreux futurs grands talents.
Julien Méchaussier à Berlin, Julien qui signe dans le magazine SoFoot un excellent reportage sur cette Mannschaft désormais un peu plus colorée. En Hongrie, la contestation sociale peine un peu à mobiliser les troupes. Dernier exemple en date, la mobilisation de citoyens contre un projet immobilier défendu par le gouvernement dans l'un des poumons verts de la capitale. L'histoire rappelle un peu celle du parc Gezi d'Istanbul en 2013, qui avait marqué le début du grand mouvement de contestation contre le pouvoir. Mais à Budapest, on en est encore loin. Le reportage de Florence Labruyère.
Alors le programme de ce soir, c'est tout le monde adopte un arbre. Chacun peut entrer, prendre un papier, un ruban. Vous écrivez quelque chose comme « J'adopte cet arbre et je serais très triste si on le coupait ».
Voilà, alors je suis venu avec mon fils de 5 ans qui est en train d'apprendre les lettres. Donc il a écrit son propre message sur cette feuille de papier. « S'il te plaît, n'abats pas cet arbre ». On va faire le tour des sites dans le parc où on projette d'abattre des arbres et de construire de monstrueux musées.
Nous sommes dans le Városliget, littéralement le bois de ville, un parc planté de 6000 arbres où les Budapestois font du vélo et promènent leurs chiens. Le gouvernement veut y construire 5 musées. Au moins 600 arbres vont être coupés. Mais depuis 3 mois, un petit groupe de citoyens occupe la partie du bois où doivent commencer les travaux. Gergely Csák, porte-parole du mouvement.
En anglais, notre mouvement s'appelle Occupy City Park. Il y a même des gens qui protègent les arbres comme ça, qui dorment là et qui habitent complètement là depuis 3 mois.
Ce soir-là, le collectif organise une promenade intitulée « Adoptons un arbre ». Ida Placek, infirmière à la retraite, a choisi un platane.
J'ai écrit « C'est mon arbre, je ne l'abandonne pas ». Moi, je vais beaucoup au musée, mais je suis contre ce projet. C'est du n'importe quoi, parce qu'à Budapest, il y a beaucoup de gens pauvres. Ils n'ont pas d'autre endroit où se reposer et pas d'argent pour partir en vacances.
Le Premier ministre Viktor Orbán veut installer ses bureaux dans le château de Budapest. Or, le château abrite actuellement des musées. Il faut donc les faire déménager. D'où l'idée d'installer un quartier de musée dans ce bois, avec des restaurants, des bars, des terrasses et des parkings souterrains. Objectif, attirer 2 millions de touristes par an. Les idées grandioses suscitent forcément des critiques, a déclaré à la télévision le commissaire du gouvernement, Laszlo Bán.
Le Parlement hongrois, le pont des chaînes, beaucoup de monuments comme ça ont suscité des débats énormes, voire un scandale à l'époque de leur construction, sans parler de la Tour Eiffel.
Occupy City Park compte quelques centaines de sympathisants, mais une trentaine de militants seulement dort sur place. Ils s'attendent à être expulsés par la police, alors ils ne se contentent pas de cultiver des tomates et des haricots qu'ils ont plantés sur le terrain investi, ils se préparent à résister pacifiquement. Comme l'explique Zoltán Gayer.
Tu vois ce bac à fleurs ? Il est en béton. Là, dans la terre, il y a un tube, tu enfonces ton bras dedans, au fond, il y a une boucle où tu peux t'accrocher. Et comme ça, personne ne peut t'emmener de force.
Qui vous a appris ça ?
Les Anglais, le groupe Occupy Heathrow. Ils occupent un terrain sur l'aéroport d'Heathrow depuis 6 ans. C'est des gens super, ils nous ont envoyé des vidéos par Internet.
Mais les Hongrois d'Occupy City Park ne sont pas aussi aguerris que leurs amis anglais. Hier, à 7h du matin, ils se sont fait brutalement expulser par 300 policiers, sans même avoir le temps d'emporter leurs ordinateurs et leurs téléphones portables. Le soir même, quelques centaines de personnes manifestaient dans le parc. « On est trop peu nombreux », déplorait Erika Forgács.
Les manifestations, ça ne fait pas partie de la tradition. Ici, chacun ne pense qu'à soi, il ne se mobilise pas pour les autres. Il n'y a pas de solidarité.
L'entreprise qui construit les musées a pris possession du chantier. Mais les sympathisants d'Occupy City Park ne baissent pas les bras. Ils continueront à manifester. La députée d'opposition, Timea Szabó, les soutient depuis le premier jour.
C'est très symbolique. Il ne s'agit pas seulement de couper quelques arbres. Ces arbres représentent les piliers de la démocratie qui tombent les uns après les autres en Hongrie.
Ne coupe pas les arbres. Janos Brody avait composé cette chanson pendant la dictature. Un poème au sens caché qui demandait aux dirigeants communistes d'arrêter de surveiller la vie privée des citoyens. Janos Brody est revenu la chanter hier pour les manifestants.
Florence Labruyère à Budapest. Près de 15 jours après le vote des Britanniques en faveur du Brexit, la situation politique en Grande-Bretagne est des plus confuses. Les deux grandes figures de la campagne en faveur du Out ont rendu leur tablier, plongeant les Britanniques eux-mêmes dans la plus grande perplexité. Et que dire de tous ces expatriés qui ont choisi d'étudier ou de travailler ailleurs en Europe ? En France, notre journaliste Assel Kipchakova a rencontré des étudiants et un professeur partagés entre la colère, l'inquiétude et le flegme qui, dit-on, caractérise nos voisins d'outre-Manche. Son reportage.
Un appartement modestement meublé dans le 18e arrondissement de Paris. C'est là où loge Katrina Manning, étudiante britannique de 21 ans. Derrière le grand sourire se cache un sentiment de colère, d'angoisse pour son avenir. Tout a changé pour elle depuis le Brexit.
Je suis complètement énervée d'être anglaise et d'être dans la même catégorie des personnes qui disent ça. C'est l'horreur en ce moment. On ne veut pas s'expliquer à tout le monde qu'on rencontre dans la rue que ce n'était pas notre décision, ce n'était pas notre faute. Mais en même temps, je veux expliquer bien à la population, et spécialement à la France en ce moment, nous, on voulait rester. Ce n'est pas de ma faute. Je ne veux pas que la population de l'Europe soit fâchée contre nous.
Pour cette jeune Britannique, c'est surtout l'ancienne génération qui a voté pour le Brexit. Si Katrina ressent le besoin de se justifier, son amie Alexandre Adi évoque, elle, une agression verbale dont elle a été la cible en plein cœur de Paris il y a quelques jours.
C'était un petit supermarché juste à côté de Champs-Élysées. Et l'homme qui a travaillé dans le magasin, il a entendu mon accent. Il m'a demandé « Est-ce que vous êtes anglaise ?» Et j'ai dit « Oui ». Il m'a dit « Mais pourquoi êtes-vous ici ? Il faut que vous reveniez. Vous pensez que vous êtes mieux que nous ? Allez, allez !» Et les choses comme ça, c'était vraiment, vraiment terrible pour moi.
3 millions d'étudiants européens, dont 200 000 Britanniques, ont bénéficié de la bourse Erasmus depuis sa création il y a presque 30 ans. Grâce à ce programme d'échange, ils peuvent étudier, voyager, faire des stages en entreprise partout en Europe. C'est le cas d'Alexandra. Elle fait son stage au sein d'une école d'ingénieurs à Paris. Elle n'est pas sûre de pouvoir revenir l'année prochaine.
Nous avons reçu une bourse d'Erasmus. Mais on ne sait pas en ce moment si ça va continuer. Moi, si je n'ai pas reçu la bourse cette année, ça devrait être vraiment difficile pour moi de vivre à Paris et en France. Je voudrais voyager en Europe, mais vraiment, je ne sais pas si c'est possible. Ça va être très difficile.
En revanche, du côté des universitaires installés en France, pas d'inquiétude a priori. Le professeur Derek Manwaring, qui vit à Paris depuis des années, est malgré tout prudent. Par précaution, il a préparé un dossier de demande de naturalisation française qu'il garde sous le coude.
Moi, je me sens profondément européen. Évidemment, ma vie est en France, donc je veux rester ici, donc je ne veux pas avoir des complications administratives ou bureaucratiques, mais c'est tout. Si je peux garder le double nationalité, je vais le garder. Je pense que c'est possible de garder les deux, parce qu'on ne sait jamais dans l'autre sens non plus, parce que la France non plus n'est pas épargnée de ces courants extrêmes et inquiétants.
De l'autre côté de la Manche, les universitaires craignent la baisse des subventions européennes. Pour Derek Manwaring, il va y avoir des changements.
Mes collègues universitaires outre-Manche sont très très inquiets, parce que tous les programmes de recherche, au moins une partie qui est en partenariat avec des Européens ou qui a un financement européen. Et ça, c'est très menacé maintenant. Et ce n'est pas une coïncidence que certaines villes où il y avait le plus haut score de voix pour rester en Europe étaient des villes universitaires.
Aujourd'hui, quelques 172 000 expatriés britanniques vivent et travaillent en France. On estime que près de 300 000 Français sont partis vivre en Grande-Bretagne. Gérer l'après-Brexit, ce sera aussi décider de l'avenir de tous ces expatriés.
À Barcelone, en Espagne, la saison touristique commence à battre son plein. Dans les rues, il y a foule. On y croise aussi de plus en plus de vendeurs ambulants, ce qui commence à créer quelques petits conflits avec les commerçants. François Musso.
On les appelle ici les top manta. Eux, ce sont ces Africains sans papier qui se consacrent à la vente ambulante sur les trottoirs, sur les places, sur les passages piétons, les promenades maritimes, partout où ils le peuvent, partout où leurs marchandises sont à même de plaire aux innombrables touristes. Ces jours-ci, on peut les voir par centaines dans le centre de Barcelone et tout spécialement sur les artères de la Barceloneta, quartier typique proche des plages. Le spectacle est impressionnant, d'autant que les top manta ne vendent plus seulement des maillots de football ou des sacs à main piratés, mais aussi des chaussures, des lunettes de soleil, des jouets, des castagnettes et mille autres choses. Ce spectacle convient aux touristes, mais pas aux commerçants. La plupart des associations ont signé un manifeste qui demande à la police municipale d'agir contre cette vente illégale. En raison de cette concurrence croissante, les commerces affirment que leur chiffre d'affaires aurait baissé de 15 à 45% selon les emplacements et les marchandises. Nous voulons des mesures urgentes, a clamé le président de ces associations de commerçants. L'affrontement est servi avec Ada Colau, la maire indignée de Barcelone, défenseur des populations sociales qui souffrent le plus. Celle-ci reconnaît qu'il faut limiter le phénomène, mais renvoie dos à dos d'autres administrations, le port, la région, l'État, le ministère de l'Intérieur aussi, car il s'agit d'un problème d'immigration. À court et à moyen terme, il semble bien que le problème soit insoluble. Nos effectifs ne sont pas suffisants, a dit le chef de la police municipale. Mais même si nous agissons là, je cite toujours, les top mantas ne disparaîtront pas, ils ne feront que se déplacer. Nous sommes dépassés par ce phénomène.
Le quatrième volet de notre série consacrée à l'islam dans les Balkans, en musique aujourd'hui avec le Sevda, que l'on présente parfois comme le fado des Balkans. Les Sevdalinke, ces mélancoliques chansons d'amour toujours malheureuses, bercent la Bosnie-Herzégovine depuis l'époque ottomane. Cette tradition musicale s'est développée dans les milieux musulmans urbains, mais une nouvelle génération de compositeurs et d'interprètes vient bousculer le genre. C'est un reportage de Simon Rico et Laurent Gélin.
Sarajevo, la capitale de la Bosnie-Herzégovine, est célèbre pour ses nombreux minarets dont la blancheur domine la ville. Mais Sarajevo, c'est aussi le Sevdar que l'on écoute dans les kafanas, ces cafés populaires des Balkans. Oh, Damir Imamovic est l'un des plus grands interprètes actuels de ces ballades nostalgiques, symbole de l'ambiance des faubourgs à mi-chemin entre l'Orient et l'Occident. Avec sa guitare, le trentenaire renouvelle ce répertoire traditionnel que chantaient déjà son père et son grand-père.
Pour moi, le Sevdar est une sorte de pont entre deux mondes, que ce soit sur le plan musical, culturel ou religieux. Mais plus le temps a passé, plus le Sevdar a été associé à l'Empire ottoman, qui était principalement musulman, mais pas seulement. Il y avait aussi beaucoup de juifs, d'orthodoxes et d'autres. Aujourd'hui, on retient surtout sa dimension ottomane, et c'est ainsi que le Sevdar est devenu un symbole musulman depuis l'époque yougoslave.
Il est difficile d'établir l'origine exacte de cette tradition populaire. La première Sevdalinka connue daterait de 1475, peu après la conquête ottomane de la Bosnie-Herzégovine, mais ces mélodies se sont surtout transmises oralement au cours des siècles, se nourrissant des influences de tous les peuples des Balkans, et notamment de celles des Juifs séfarades, arrivés d'Espagne à Sarajevo après la Reconquista. Pour Kenan Hadji Feyzovic, leader du chœur Hazreti Hamza, les racines du Sevdar sont à chercher dans les chants des derviches.
Pour moi, le Sevdar et les Sevdalinké trouvent leur origine dans les chants musulmans soufis, les ilahi, les kassida, parce que les mélodies sont semblables et que, dans les deux cas, la joie et la peine se marient dans le chant. Ceux qui les comprennent peuvent aussi se rendre compte que les textes ont bien des points communs. Le Sevda a aussi évolué au contact des autres communautés, les orthodoxes, les catholiques, les juifs qui vivent à Sarajevo. Voilà pourquoi on peut considérer le Sevda comme une musique bosnienne, alors que les ilahi, les kassida, sont seulement musulmans.
Longtemps confiné aux arrière-cours, le Sevdar a commencé à être médiatisé du temps de la Yougoslavie, quand les autorités socialistes ont décidé de faire de cette musique l'un des emblèmes de la Bosnie-Herzégovine. Depuis 2008, Sarajevo a même une maison du Sevdar, un petit musée implanté dans le vieux bazar ottoman. On y découvre l'histoire et les vedettes du Sevdar, celles de son âge d'or yougoslave. Quand on demande au jeune gardien des lieux qui est le plus grand chanteur de Sevdar, il n'a aucune hésitation.
Safet Isovic est le roi du Sevdar. C'est la plus belle voix du Sevdar de la grande époque, la plus belle qui ait jamais existé en Bosnie-Herzégovine. On n'en entendra pas d'autre comme lui avant longtemps.
Avec leur tempo doux et leurs riches harmonies, les Sevdalinké comptent le plus souvent des histoires d'amour contrariées ou impossibles. Après la guerre des années 1990, une nouvelle génération de jeunes musiciens a commencé à se réapproprier ce folklore au moment où il risquait de disparaître. Parmi ces artistes, Bojo Vrečko, un jeune Serbe dont le look queer, robe dos nu, longue barbe et yeux charbonneux, a fait grincer des dents dans le monde d'ordinaire feutré du Sevdar.
Au début, c'était assez difficile de me faire accepter parce que la société bosnienne est très traditionnelle, très patriarcale. Il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de stéréotypes, mais ce qui est important, c'est d'être authentique. Et si tu es authentique, si tu ne mens pas dans les Balkans, les gens t'acceptent tel que tu es. Maintenant, j'ai mon public, la preuve, mon prochain concert à Sarajevo affiche complet depuis longtemps.
Bojo Vrečko et les autres vedettes du nouveau Sevdar se produisent devant des salles combles aux quatre coins de l'ancienne Yougoslavie, que ce soit en Bosnie-Herzégovine, en Serbie, en Croatie ou en Macédoine, comme le faisaient leurs aînés avant la guerre. Parce que dans tous les Balkans, les gens connaissent par cœur ces chansons d'amour intemporelles.
Mathieu Salabert a réalisé et mis en onde cette émission. Accent d'Europe à retrouver demain dès 17h40 dans l'Universel.